Et de la Cannes avec vous, Juan Gomez.
Et les auditeurs de RFI, bien évidemment. Sûr. Bonne journée, Nathanaël Vitran. Dans 30 secondes, vos questions à la rédaction. Et puis dans 40 minutes, on parlera véritablement football. Et on se projetera sur les...
Radio G. 101.5 FM.
Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Tout compte fait, l'émission qui fait la part belle au compte. Il y a 15 jours, nous débutions un Tour de France et je vous propose aujourd'hui de faire une halte dans le Midi, la Provence. Terre riche d'images et de légendes, possède une longue tradition de littérature orale et a inspiré bon nombre d'artistes à prendre la plume pour transmettre ses histoires à l'image de Frédéric Mistral. Et oui, incontournable figure de la Provence littéraire et fervent défenseur de l'Occitan, ce poète du Félibrige a collecté bon nombre d'histoires dont certaines ont été publiées au début du siècle dernier dans l'Almanach provençal. Je vous en propose aujourd'hui deux d'entre elles. Mais pour commencer, je vais vous délivrer les secrets du Mistral. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas du poète, mais bien de ce vent coquin qui donne au ciel provençal une couleur sans pareille. À tout tard.
On dit depuis toujours en parlant de l'amour qu'il est enfant de bohème. Je crois tout simplement que c'est du vieux roman. Tout cela n'est que poème. Napolitaine ou bohémienne, leurs pas sont délicieux. Mais rien n'égale nos provençales, car dans leur cœur y a du feu. L'amour est un enfant du Midi, il a vu le jour dans la Provence. Des poètes ont trouvé son nid dans les fens tout près de la Durance. De tous les coins du monde l'on vient sentir le parfum des romarins. Sous notre ciel vermeil, l'amour et le soleil sont deux jumeaux sans pareil. Du matin jusqu'au soir, sans s'en apercevoir, au beau pays de Mireille, nous chantons des chansons tout comme des pinsons. La gaieté nous ensoleille, blaguer sans cesse, avec adresse, c'est notre spécialité. Puis pour les trentes, nous n'avons crainte d'aucune rivalité. L'amour est un enfant du Midi, il a vu le jour dans la Provence. Les poètes ont trouvé son nid dans les fens tout près de la Durance. De tous les coins du monde l'on vient sentir le parfum des romarins. Sous notre ciel vermeil, l'amour et le soleil sont deux jumeaux sans pareil. On fait de tous côtés des concours de beauté afin d'élire une reine. Tandis qu'à Tarascon, à Marseille, Avignon, ce n'est vraiment pas la peine. Brunes ou blondes, minces ou rondes, chacune est un vrai bijou. Toute la gamme des jolies femmes n'existe ailleurs que chez nous. L'amour est un enfant du Midi, il a vu le jour dans la Provence. Les poètes ont trouvé son nid dans les fens tout près de la Durance. De tous les coins du monde l'on vient sentir le parfum des romarins. Sous notre ciel vermeil, l'amour et le soleil sont deux jumeaux sans pareil. Sous notre ciel vermeil, l'amour et le soleil sont deux jumeaux sans pareil.
Tout compte fait.
Les secrets du Mistral. Il existe bien des légendes qui courent sur l'origine du Mistral, ce vent grincheux, trinqueux et impérieux. Certains l'imaginent en provenance du firmament, sous l'apparence tutélaire d'un aigle. D'autres, plus crédibles, prétendent qu'il prend naissance au sein des marais du Vivarais, sous l'arche géante d'un rocher ajouré, d'où surgit son sonore allaitement. Là, se gonflent et s'amplifient ses tourbillons, s'enflent et se renforcent ses bourrasques, avant de s'échapper en rafale dans un festival de mugissements et de rugissements de chacals. Inquiets devant ces imprévisibles accès de colère, les habitants du village voisin résolurent un jour de le barricader dans sa tanière. Tandis qu'il s'adonnait dans les bras de Morphée à un sommeil récupérateur, ils s'avancèrent à pas feutrés pour clouer sur chaque pilier du bloc béant de solides planches, minutieusement sélectionnées pour la dureté et l'épaisseur de leur bois. Il y a de cela des années, des menuisiers les avaient déjà débités dans des troncs d'oliviers centenaires, puis taillés, rabotés, poncés et patinés, si bien qu'elles avaient acquis une solidité et une imputrescibilité incontestables. À son réveil, le vent tenta en vain de souffler sur ses étais, mais ils résistèrent imperturbablement à ses assauts rageurs et ravageurs. Le Mistral ne put donc s'évader de son repère lapidaire et pénitentiaire. Du coup, il se fit menaçant et vociféra. « Ah ! Quand je parviendrai à me libérer, je déracinerai vos amandiers et vos cyprès. J'arracherai de vos toits tuiles et girouettes. Je gommerai les clôtures de vos jardins et briserai les statues de vos portails. »« Raison de plus pour te laisser là où tu es !» s'exclamèrent les cultivateurs rassurés par la stabilité du boisage de leurs murs. Décontenancé, le Mistral proféra ensuite une série d'imprécations plus terribles les unes que les autres, aussi catastrophiques que les plaies d'Égypte. « Je vous maudis que les marécages qui enserrent vos terres soient infestés d'une théorie de moustiques et sales autres bestioles, que les miasmes de ces eaux en putréfaction infectent vos maisons et vos poumons, que les fièvres qui vous dévoreront fasse périr vos moutards et vos vieillards. Ainsi, vous regretterez vos agissements irréfléchis. » L'été venu, une chaleur implacable, chargée d'humidité, ne manqua pas de régner régulièrement sur la région. Bientôt, se manifestèrent les signes avant-coureurs d'une épidémie. Des odeurs pestilentielles envahirent les ruelles du bourg. Des cadavres d'animaux en décomposition descendirent les ruisseaux. Des insectes bourdonnants et agressifs piquèrent la peau veloutée des bébés et l'épiderme corné et ridé des anciens. Les constitutions les plus fragiles sentirent des douleurs, migraines et autres indispositions s'emparer de leur crâne, leur sang s'épaissir au long de leurs veines, leur estomac devenir rétif à toute digestion. Tous les malheurs du monde semblaient s'être concentrés sur les maisons des villageois dévariés. Ils décidèrent alors de se réunir afin de délibérer sur le sort à réserver aux vents violents, encore séquestrés. Vous voyez bien que les prédictions du Mistral se réalisent, déclara la veuve du mât des Micocouliers. Son passage délivrait la campagne des effluves des marais tout proches, dissipait les nuages et brumes qui nous ceinturent de bouffées étouffantes. Il asséchait les terrains détrempés où nos cultures se meurent. Il aidait aussi nos fruits à mûrir, à se couvrir
de belles couleurs appétissantes. « Oh, il faut le relâcher immédiatement !» s'écria le doyen de l'assemblée. « Sinon la peste s'abattra sur nos troupeaux et décimera toutes nos bêtes. Il vaut mieux qu'il nous transperce de froid et emporte quelques branches sur son passage, plutôt que de prolonger cette mauvaise plaisanterie, » continua sa femme. « Je suis d'avis qu'il faut agir vite, sinon... Mais il va de nouveau tout renverser, et nous ne serons pas gagnants dans le marché. » De toute façon, nous n'avons guère le choix qu'entre malheurs et fléaux, ajouta le maire qui ne savait plus à quel saint se vouer. Le mistral, qui avait pu surprendre une partie des débats, prit la parole et promit doucereusement : Si vous consentez à me laisser sortir, je vous assure que je ne déracinerai pas vos amandiers. Ni vos cyprès, je n'arracherai plus les tuiles et les girouettes de vos toits. Je ne gommerai jamais les clôtures de vos jardins et ne briserai aucunement les statues de vos portails. Bergers, vanniers et fermiers, d'abord perplexes, finirent par le croire. Ils décelèrent un par un les bardeaux bloquant la brèche de la falaise et débarrassèrent le vent de ses entraves. Aussitôt, le mistral s'engouffra dans l'ouverture et se rua au dehors. Les paysans, muets et craintifs, attendaient sans bouger, regrettant manifestement de ne pas avoir exigé davantage de garanties. C'est alors qu'un enfant, s'approchant du géant dans un élan, protesta « Et ta promesse ?» Le vent, farouche et déchaîné, s'apaisa instantanément. Subitement affriolant, il câlina les pousses des amandiers et des cyprès. Il chatouilla les tuiles et girouettes des toits. Il frôla, enjôleur, les clôtures des jardins et caressa les statues des portails. Bientôt, les afflictions qu'endurèrent les braves campagnards furent reléguées au rang des mauvais souvenirs, et chacun se félicita de l'issue propice et heureuse de cet épisode éprouvant et épouvantable de l'histoire du maître des vents, qui s'en alla par la vallée du Rhône, grondant, grommelant, grognant vers les plaines du Midi.
Tout compte fait.
On va passer un dimanche au coude, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au coude, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Du lundi au samedi, travailleurs et chômeurs, tous ceux qui étudient, les honnêtes, les fraudeurs, les papis, les mamies, les policiers, les voleurs, veulent tous recevoir le fruit de leur dur labeur. Ils voudraient tous conserver quelques valeurs, ces valeurs auxquelles Marseille a toujours fait honneur. La convivialité, la chaleur et la bonne humeur, le rythme des Marseillais au gré des saisons, des couleurs. À l'automne, on va passer quelques belles soirées dehors. L'hiver, il faut patienter, là-dessus, on est tous d'accord. Si le printemps le permet, on se promène sur le port. Mais quand arrive l'été, l'appel des goudets, le plus fort, on va passer un dimanche au coude, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au coude, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon.
Du printemps au printemps, trop de mauvais délires résonnent dans la ville et mon esprit chavire. C'est le chable partout, vraiment pas de quoi rire. 5000 tous les jours, tu peux t'attendre au pire. Pas le temps de souffler, c'est toujours le chantier. Pas le temps de souffler, le monde est sans pitié. Certains sont prêts à tout pour finir les premiers. Dans le ciel, les vautours se comptent par milliers. Laissons là tous ces fous et partons voir ailleurs. Je connais un endroit où tout paraît meilleur. Un endroit au soleil sans oiseaux de malheur. Là-bas dans la calanque, tu verras, c'est le cœur.
On va passer un dimanche au coude, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au coude, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon.
La légende des cigales. L'histoire se déroule au temps béni où les anges venaient passer leurs vacances en terre de Provence. Ils arrivèrent ainsi dans cette contrée aux couleurs exceptionnelles par un matin de grande lumière et furent étonnés de ne pas rencontrer âmes qui vivent entre Calanque et Restanque. Et surtout, ils s'exaspérèrent d'apercevoir de nombreux champs, non provisoirement en jachère, mais définitivement en friche. Eux, qui rêvaient d'admirer d'opulents vergers, de prospères potagers, se trouvèrent fort maris. Très déçus, ils s'en allèrent frapper à la porte du presbytère et restèrent ébahis de découvrir le curé non point raisonnablement consacré à la prière, mais profondément enfoncé au cœur d'une sieste sanitaire et solennelle, engoncé sous les boutis d'une confortable litière. Le prêtre, empressé, leur exposa que le Seigneur avait choisi de dispenser à ses compatriotes du midi du soleil en abondance, avec même exubérance, et leur permettait donc de disposer de sommeil à foisonnance en luxuriance. Il leur précisa de surcroît que les gens du coin se tenaient sagement à l'ombre des oliviers afin de se préserver des rayons violents de Phébus. L'un des séraphins, perplexe, interrogea « Mais quand travaille-t-il alors ?»« À la fraîche !» répondit humblement en écartant toute polémique sarcastique l'ecclésiastique. « Un peu à la rosée, et pas beaucoup plus à la vesprée. » Ceci explique le piteux état de leur terrain. Les messagers aux ailes dorées s'en retournèrent au ciel, conter leur aventure à Dieu, qui décida aussitôt de créer une nouvelle espèce d'insecte. Lorsque le disque solaire se montrerait par trop ardent, durant la torride saison estivale, les bestioles se cacheraient dans les pins et exécuteraient-elles de téméraires tambourinaires les notes stridentes d'une musique exacerbée dans le dessein d'empêcher les habitants du pays de dormir exagérément au beau jour retrouvé. C'est ainsi que naquirent les cigales, symbolisant et bruyant symbole, en parfaite symbiose désormais avec l'art de vivre méridional.
Tout compte fait.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée. De la plage ensoleillée. De la plage ensoleillée.
Le gros poisson. Un Martégal, un habitant de Martigues, venait tous les jours à Marseille pour des affaires qu'il avait. Et tous les soirs, quand il était de retour au Martigues, ses voisins lui venaient. « Eh bien, Génésie, qu'y a-t-il de neuf à Marseille ?» Et le bon Génésie racontait de fil en couture tout ce qui était arrivé de neuf dans la capitale du Midi. Un jour, sur tous les autres, le Génésie, n'ayant rien à dire de neuf à ses finauds de compatriotes, et s'attendant pourtant, comme toujours, à la question ordinaire, « Oh, pour cette fois, se dit-il en lui-même, il faut que je leur en fasse péter une à ces nigauds, une, ma foi de Dieu, qui fume. » Et c'était bien ce qu'il comptait faire. Il arrive au Martigues sur le soir, et du plus loin qu'il le voit, « Eh bien, Génésie, qu'y a-t-il de neuf à Marseille ?» lui crient les martigots. « Ah, mes pauvres !» fait Génésie. « Je vais vous en dire une aujourd'hui qui peut compter pour deux, hein ?»« Ah, mais bon, voyez-vous, si je ne l'avais vu, le diable m'emporte si je l'aurais cru. » Et aussitôt, comme si le trompetteur public avait passé par la ville, tout le monde, femmes, hommes, enfants et vieillards se rangent à son entour, et le raconteur de nouvelles entame alors le récit qu'il avait médité. Et vous saurez, Martégo, vous saurez que ce matin, un rade de Marseille est arrivé
un poisson, mais un poisson si colossal, si vigoureux et si long, que la tête est amarrée dans le port et la queue va toucher le château d'If. Oui, oh, vous le croirez ou non, hein. Ce poisson prodigieux a la tête prise entre le fort Saint-Jean et le fort Saint-Nicolas. Et tout Marseille est monté là-haut à Notre-Dame de la Garde, voulant voir comment feront les pêcheurs pour le sortir de là. Les Martégaux, les pauvres, le crurent comme du miel. Et sans délibérer, allons, zou, partons. Et sans songer qu'il allait être nuit, femmes, hommes, filles, vieillards, enfants, tous partent pour Marseille, comme s'ils allaient à la noce. Génésie, lui, le fin tireur de bourde, était sur une hauteur qui le regardait passer en se tordant de rire. Voyant pourtant que tout le monde y allait, sauf les malades, il se dit oh, « Trop non d'un larron oh, si tout le Martigues y file, et faut-il que ce soit vrai ?» Et aussitôt, nouant les courroies de ses souliers, il se met à courir tant qu'il peut pour attraper les autres et marcher avec eux sur Marseille.
Tout compte fait.
La vache du roi René. Quand Monseigneur René descendit de l'Anjou pour venir régner en Provence, il amena de son pays une belle vache dans l'intention de la faire véler et d'en répandre la race dans son nouveau royaume. Et comme le roi aimait fort les Martégaux, il en confia la garde à un vacher du Martigues en lui recommandant d'en avoir bien soin. « Vois-tu, lui dit le roi, tu auras 100 écus par an si tu la soignes bien. Tu l'amèneras au taureau et le croix reviendra à la ville du Martigues. Et tu auras les 100 écus tant que la vache durera. Et je dois t'avertir que je tiens tellement à ma vache angevine que je ferai pendre sans doute au grand micocoulier de la place du palais celui qui viendrait pour me dire qu'elle est morte. Allez, tu peux emmener la vache. » Le vacher emmena la vache, mais malheureusement, il la fit tant manger qu'au bout de quelque temps, la bête, grâce à éclater, creva de pléthore. Le vacher, désolé, qui ira dire au roi que sa vache est morte? Le vacher va trouver les consuls de la ville du Martigues et leur conte le malheur en s'arrachant les cheveux. Les consuls, aussitôt, cherche un messager pour porter la nouvelle à Aix. Mais nul n'avait le cœur de tirer la châtaigne. « Pas signé, hein, » disaient les Martégaux entre eux. « Nous savons qu'à Aix, on pend les gens. » Pourtant, il y eut un homme de Saint-Chamas qui dit « Allez, je risque le paquet, si on veut bien me payer la commission. » Accord et pacte fait, notre homme vient à Aix et se fait présenter à Sa Majesté le Roi de la part du vacher et des consuls du Martigues. « Eh bien, lui dit le roi, ami, que fait ma vache ?»« Ah, monseigneur, votre vache, j'ai à vous dire qu'elle ne boit plus. »«
Alors ?»
dit le roi. « Ah, monseigneur, votre vache, j'ai à vous dire qu'elle ne mange plus. »«
Alors ?»
dit le roi. « Eh, monseigneur, votre vache, j'ai à vous dire qu'elle ne pisse plus. »«
Et alors ?» fit de nouveau le roi.
« Monseigneur, votre vache, autant vaut le dire, elle ne va plus du corps. »«
Ah ça, voyons, compère, » vint alors le roi. « Ma vache ne boit plus, ne mange plus, ne pisse plus et ne va plus du corps. »« Mais alors, elle est morte ?»
« Et vous l'avez dit, monseigneur, vous l'avez dit. Ce n'est pas moi qui serai pendu. »
Là-dessus, le roi René se met à rire,
et dit au messager « Je n'aurais pas cru les Martégaux si fins.
Oh, mais c'est que je suis de Saint-Chamas. »«
Ah, tu m'en diras tant, » répliqua le bon René. « Jamais de Saint-Chamas ne sortit mauvaise moule. »
Notre halte en Provence se termine, et avec elle, cet avant-goût d'été qui nous laisse un peu rêveurs. Vous pouvez retrouver cette émission dès à présent, ainsi que toutes les précédentes, sur le site de Radio G à la rubrique de l'émission. Jeudi prochain, ce sera au tour de l'équipe de J'entends des voix. Quant à nous, je vous donne rendez-vous jeudi 10 février à 9h10 pour une nouvelle étape du Tour de France des Contes. Je vous souhaite à tous une bonne journée à l'écoute.